Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, on vous attend sur nos réseaux sociaux pour lire vos réactions. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Jérôme Magnin, associé dirigeant de GFIP. Bonjour Jérôme.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Hervé Puteaux, directeur général de JPA International. Bonjour Hervé.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous recevons James Ejazi, CEO de Winston Rose. Bonjour James.
Bonjour Pauline.
Alors James, vous êtes avocat de formation et docteur en droit. Vous avez plus de 20 ans d'expérience en droit des affaires et en stratégie juridique avec un volet international et européen important hein, puisque vous êtes aussi inscrit depuis 2012 au barreau de Budapest en qualité d'avocat européen. En novembre dernier, vous êtes aussi nommé juge au tribunal des activités économiques de Paris. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler de Winston Rose, une banque d'affaires premium que vous avez fondée en 2020. Alors, on va y revenir, hein, bien sûr. Mais d'abord, un mot sur votre riche parcours. J'ai pas pu tout raconter, mais en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé d'avocat à aujourd'hui président d'une banque d'affaires pour PME-PMI ?
Alors, effectivement, ça paraît un peu étrange. Et pourtant, vous allez voir, c'est très logique. Pendant cette vingtaine d'années où j'étais avocat d'affaires, évidemment, mes clients étaient des fonds d'investissement, des family office, des investisseurs, et de l'autre côté, des PME ETI qui recevaient les investissements. Je faisais des opérations de fusion-acquisition, donc de transmission d'entreprise, et j'ai simplement changé de casquette il y a 6 ans en créant JH Conseil, qui est devenu aujourd'hui Winston Rose.
Alors justement, Winston Rose est une banque d'affaires premium spécialisée dans les PME et PMI, vous l'avez dit. Vos solutions sont conçues pour gérer les risques liés aux transactions nationales et internationales et soutenir aussi donc la croissance globale des entreprises. En quelques chiffres, Winston Rose, c'est 8 collaborateurs, une équipe multidisciplinaire, tout le monde
Absolument.
Se complète, ça c'est important pour vous.
Alors c'est surtout que, en fait, nous avons fait le choix d'intervenir sur tous les domaines, à part un domaine qui est la biotech, qui est très particulier et qui est très spécialisé, mais sinon on intervient sur tous les domaines. Et pour pouvoir faire ça, on avait besoin d'avoir une équipe flexible et créer des équipes dédiées pour chaque projet. C'est-à-dire que ces 8 personnes couvrent les 8 domaines d'intervention globale, les 8 domaines d'intervention que nous avons, et globalement, ce seront elles, chacune d'entre elles, qui sera à la tête de l'équipe dédiée à chaque fois pour chaque projet.
Alors, on va y revenir dans les détails, mais je précise, hein, pour finir la fiche technique, vous êtes présent en Europe, en UK et aux États-Unis, et c'est environ 30 millions de chiffre d'affaires sous mandat, si je ne me trompe pas dans
Alors, c'est pas le chiffre d'affaires, nous avons 30 millions sous mandat.
Ah oui, pardon, merci de préciser. Alors, pour rentrer dans les détails, je donne la parole à Jérôme Magnin de GFIP.
Quel est le profil type des entreprises clientes de Winston Rose et observez-vous aujourd'hui une évolution notamment avec davantage de PME en recherche de financement.
Alors, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, nous avons fait le choix d'intervenir dans les opérations de small cap, c'est-à-dire des levées de fonds ou des opérations de transmission d'entreprise qui ne dépassent pas les 20 millions d'euros. On intervient essentiellement dans les opérations de seed ou des levées de fonds Seria et pas plus. Et donc, nos interlocuteurs sont essentiellement les PME. Et ça a déjà été le cas quand j'étais avocat d'affaires où j'intervenais dans leur intérêt. Plus d'entreprises qui ont besoin d'argent, pas vraiment. De tout temps, je me rappelle, les sociétés avaient besoin d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, la nature et le visage des investisseurs a beaucoup changé. Il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, il était très, très facile de lever des fonds, surtout pour des petites sociétés, sur des PME qui démarraient, des start-up, dont on a tous entendu parler à l'époque où c'était la fête. On levait ce qu'on voulait en 6 mois d'activité avec une bonne idée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, malheureusement, les investisseurs sont beaucoup plus frileux et posent beaucoup plus de conditions et sont beaucoup plus exigeants qu'avant.
Dans votre segment, quels sont les critères qui attirent particulièrement les investisseurs et à l'inverse, quels profils d'entreprises sont généralement écartés ou jugés trop risqués ?
Alors, justement, il n'y a pas si longtemps, j'ai publié une espèce de manifeste sous forme de post LinkedIn. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs investissent quand il n'y a quasiment pas de risque. C'est-à-dire les bonnes sociétés dans lesquelles on peut investir sont les sociétés qui sont déjà rentables, qui ont déjà 2 ou 3 bilans, qui ont un EBITDA positif depuis très longtemps, qui sont bien connectées et qui ont déjà levé des fonds. Grosso modo, c'est comme quand vous allez à la banque, vous avez 2 millions sur votre compte et vous voulez emprunter 3 millions, bah, vous les aurez. En revanche, si vous n'avez rien sur votre compte et vous avez besoin de 5 000, vous ne les aurez pas. Et malheureusement, le profil et la nature des investisseurs, des investissements aujourd'hui est devenu un petit peu similaire à cela. On essaye de se battre contre ça. Chez Winsor Rose, on ouvre nos carnets d'adresses et on se bat vraiment pour connecter directement et faire le pont entre les family office la plupart du temps ou les business angels et nos clients qui ont besoin de très peu pour démarrer une activité qui peut devenir essentielle demain. Et on essaye de vendre des idées qui ne sont pas encore réalisées, mais qui peuvent l'être et qui peuvent devenir des choses extraordinaires. Il faut jamais oublier que les industries et les marques et les business les plus importants qu'on connaît aujourd'hui ont démarré dans un garage, ont démarré dans une chambre d'étudiants, ont démarré chez la grand-mère dans le cellier, et que aucune des grandes n'est née grande. On a commencé petit pour devenir grand. Mais bon.
Dans quelle mesure l'IA est-elle devenue un argument déterminant pour une entreprise en levée de fonds, voire un véritable accélérateur de financement ?
Alors, c'est un petit peu la même question qu'on se posait il y a 30 ans ou il y a 20 ans dans l'an 2000, quand on appelait Internet les réseaux numériques, où on se demandait quelle était l'influence de l'intégration de l'Internet dans la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, l'IA fait partie de quasiment toutes les activités, que ce soit entrepreneuriales, que ce soit à titre personnel. Je ne veux pas citer de marque, mais on a tous sur notre iPhone un copain à qui on pose des questions quand la mémoire nous fait défaut et on a qui nous rédige les lettres de remerciement et autres. Voilà. Donc l'IA fait partie de la vie quotidienne des gens aujourd'hui et de la vie des entreprises. Maintenant, il est évident que dans certains secteurs et certains domaines, l'IA fait vraiment la différence. Et l'intégration intelligente de l'IA fait une grosse différence justement dans le cadre d'une levée de fonds et dans le cadre d'une transmission d'entreprise.
La démarche ESG est-elle aujourd'hui un prérequis pour convaincre les investisseurs ou cela dépend encore fortement de l'origine géographique et de la culture d'investissement ?
Alors, la réponse courte est oui, c'est important. Et si on veut développer un petit peu, ça dépend. Ça dépend du montant de l'opération. Si vous allez voir des fonds institutionnels, évidemment, c'est une condition sine qua non. Si on parle de gros montants et des domaines comme la tech ou le domaine bancaire, évidemment, c'est indispensable. Mais quand on passe dans les levées de petits montants comme des seed ou des petites séries A, ou nos interlocuteurs, c'est les business angels ou les petites family office. Là, on est moins regardant, mais c'est évident que l'ESG est quelque chose, j'allais dire, d'incontournable aujourd'hui et de plus en plus montant.
Incontournable, comme la question d'Hervé, plutôt.
Merci. Oui, très, très intéressant. Une question, vous rappeliez, et c'est du bon sens, que les petits étaient petits avant de... que les grands étaient petits avant de devenir grands, pardon. Est-ce que vous avez ou vous constatez le souci que les petits veulent grandir, mais en restant chez eux, puisque les très grands auxquels on peut penser, peut-être dans un environnement plus anglo-saxon, sont toujours là et sont devenus très grands. On voit des fois que dans le modèle français, quand les choses marchent plutôt bien, les systèmes de financement, l'écosystème fait que on prend ce qu'on a construit et on va faire autre chose. J'aimerais vous entendre sur ce sujet de croissance finalement et de durabilité des dirigeants.
Alors il y a deux écoles mon général. Il y a un exemple très concret. Il y a 3 jours, j'ai signé un mandat avec une société de deep tech qui sont à la pointe d'une technologie dans le cadre de développement agricole. Et c'est en train de devenir très gros, justement. On est en train de lever une série B pour eux. Et j'ai eu la présidente au téléphone, qui est une scientifique, et qui m'a dit, écoutez, la première fois qu'on s'est vu, vous vous êtes présenté en me disant, je m'appelle James, j'ai un fils à l'époque de 7 ans. Et moi, aujourd'hui, j'ai un fils de 12 ans et j'ai une fille de 13 ans. Et je ne veux pas qu'il y ait une majorité qui parte et que je veux que ce business reste dans ma famille. Parce que c'est finalement la chose que je veux transmettre, la trace que j'ai laissée sur cette terre pour transmettre à mes enfants. Il y a cette école-là. Et puis, vous avez des domaines dans la MedTech où c'est des professionnels de développement, où ils développent, ils grossissent une société, ils lèvent la série C et ils s'en vont. Et ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'opportunité et d'environnement, justement, comme vous le disiez, du domaine d'activité.
Claire.
Allez, une petite dernière question un peu plus personnelle, comme d'habitude. Vous aimez les livres anciens, l'histoire géopolitique, le vin, mais aussi le polo, il me semble.
Absolument. Alors, c'est une passion ou une obsession, plus exactement, qui est familiale et qui me suit depuis des dizaines d'années, malheureusement, on peut le dire maintenant. Et aussi, comme la dame dont je parlais, je transmets à mon fils.
Et ben, voilà. Et je suis sûre qu'il a de la chance et qu'il s'amuse bien du coup sur le terrain.
C'est le but.
C'est le but. Merci beaucoup James et Jazzy d'avoir échangé avec nous. Merci également à vous Jérôme et Hervé. C'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio, mais retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour accueillir un nouvel invité. Et surtout, on n'oublie pas ce rendez-vous en mars 2027 pour la deuxième édition de l'Européen ETI Summit à la Sorbonne. Ce sera en présence de 1000 dirigeants d'entreprise. À très bientôt. Merci.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.